Voilà, je vous invite à suivre l'émission Dialogue entre Congolais avec Kéline Kouté.
Bonsoir. Le programme alimentaire mondial PAM au Congo-Brazzaville annonce la rupture de ses stocks de vivres destinés à assister les quelques 120 000 réfugiés établis au nord de ce pays. Le PAM explique cette situation par l'absence de donateurs sur le plan international. Entre-temps, on assiste à un retour volontaire des réfugiés dans leur milieu d'origine. Au Bas-Congo, par ailleurs, c'est l'ONG Interaction de Tchela qui demande au gouvernement de la RDC de renforcer la prise en charge des expulsés d'Angola. Comment analyser cette situation? Quelle est la politique du gouvernement et de ses partenaires tels que les HCR pour assurer la réintégration de ces personnes? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 12 octobre 2011. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Ferdinand Kambere, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Il intervient depuis la province du Nord Kivu. Monsieur le ministre, bonsoir. La réalisation me signale qu'il n'est pas encore en ligne. Céline Schmitt, elle est porte-parole du Haut Commissariat aux réfugiés HCR RDC. Elle est avec moi dans ce studio. Bonsoir Céline.
Bonsoir.
Et Maître Joseph Paty Lendo, acteur politique de l'opposition, également en ligne. Maître Paty Lendo, bonsoir. Merci parce que vous êtes très nombreux à nous envoyer déjà vos réactions. C'est le cas de Jean-Jacques de Kinshasa. Je me demande pourquoi le gouvernement de la RDC ne s'implique pas pour le retour de ces réfugiés en RDC en créant des conditions de survie meilleures à leur établissement. Matoumaini Franklin de Bukavu, Sud Kivu, à qui revient la prise en charge des réfugiés entre l'état d'accueil, l'état d'origine et le HCR. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, rejoignez-nous sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le programme alimentaire mondial a annoncé le week-end dernier à Brazzaville la fin de ses stocks de vivres destinés à assister les quelques 120 000 réfugiés de la RDC établis au nord du Congo-Brazzaville. L'agence onusienne explique cette situation par l'absence des donateurs sur le plan international. On écoute Fabienne Pompey, chargée de communication du PAM, au téléphone de Samuel Kachak.
Jusqu'à présent, on assistait 120 000 réfugiés venus de la RDC dans la Likwala. Et depuis mars, à peine 20% des fonds nécessaires ont été reçus. Alors on a déjà été obligé de diminuer les rations. Et si on ne reçoit pas urgemment des fonds, cette aide alimentaire s'arrêtera à la fin du mois. Il y a un dernier stock de nourriture, 900 tonnes. Il est en cours de distribution. Après, il n'y a plus rien. Maintenant, pourquoi est-ce que les bailleurs de fonds ne financent pas ce programme? Je pense que c'est à eux qu'il faut poser la question. Maintenant, il y a un mandat du PAM qui est d'aider les réfugiés par l'aide alimentaire jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux, et ce n'est pas au PAM de décider quand est-ce que ce retour doit avoir lieu. Nous, ce qu'on fait pour le moment, c'est de rester en contact avec les donateurs et d'essayer de les convaincre qu'il faut continuer à aider ces 120 000 réfugiés qui sont dans le Nguala. Il faudra qu'il y ait une discussion et un accord tripartite entre le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et le HCR, mais ça, je pense que ma collègue du HCR pourra nous en donner plus de détails avant que les gens rentrent chez eux. Pour le moment, nous espérons bien que les donateurs entendront notre appel et continueront à nous aider à donner cette aide alimentaire à ces 120 000 réfugiés.
Céline Schmitt, vous êtes porte-parole du Haut Commissariat aux réfugiés HCR RDC. On vient de suivre Madame Fabienne Pompey, chargée de communication du PAM, qui explique cette situation, donc la situation de rupture des stocks des vivres dans le camp des réfugiés au Congo-Brazzaville par l'absence des donateurs sur le plan international. Comment vous pouvez expliquer ce manque d'intérêt des donateurs internationaux?
Alors effectivement, on a remarqué depuis maintenant quelques temps que l'aide internationale, l'aide des donateurs diminuait pour les réfugiés qui étaient hébergés dans la Likwala. On parle actuellement d'un peu plus de 130 000 personnes, de 130 000 Congolais qui sont réfugiés là-bas. L'aide des donateurs diminue puisque souvent les donateurs ont une aide d'urgence à donner qui s'arrête aux 6 premiers mois de l'urgence et ensuite effectivement leur aide diminue. Nous, on essaie de continuer à faire le plaidoyer pour que les donateurs continuent à nous aider. à la fois le PAM qui vous disait qu'ils avaient de grands besoins de financement de cette opération, mais également les autres partenaires qui sont sur place, qui travaillent dans l'eau, l'assainissement, la santé, l'éducation, le HCR également, pour qu'ils continuent à nous aider jusqu'à ce que toutes les conditions soient mises en place pour permettre le retour de ces réfugiés.
Et lorsque les donateurs internationaux ne font plus, ne financent plus ou n'envoient plus de dons pour ces réfugiés, qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, nous, on essaie effectivement de les convaincre de continuer à soutenir nos programmes pour que nous puissions continuer à assister les réfugiés tant qu'ils sont dans la Likwala. Nous avons fait un appel aux donateurs, donc nos collègues qui sont à Brazzaville appellent régulièrement les donateurs à continuer à financer nos programmes, les emmènent dans la Likwala pour qu'ils puissent voir les réfugiés dans quelles conditions ils vivent.
Et au cas où vous n'arrivez pas à les convaincre?
Alors, on va continuer à essayer de les convaincre, puisque si nous n'arrivons pas à les convaincre, si nous n'avons plus de fonds, nous serons obligés d'arrêter l'assistance à ces réfugiés. Le PAM disait que, voilà, le mois prochain, ils n'auront plus de vivres pour distribuer aux réfugiés. Cela risque d'arriver aux autres partenaires qui interviennent sur place. Le HCR, par exemple, qui donne des biens de première nécessité, effectivement, si nous n'avons pas les fonds nécessaires, nous nous verrons également obligés à arrêter cette assistance.
Alors, on parle de 130 000 réfugiés qui se trouvent actuellement au Congo-Brazzaville. À ce jour, combien sont déjà rentrés au Congo ?
Alors actuellement, on a enregistré un peu plus de 1700 retours à Dongo et quelques 9000 retours à Libengue. Donc ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de vérifier les listes de ceux qui se sont enregistrés comme rapatriés spontanés pour voir s'ils sont bien dans nos bases de données en République du Congo, mais également en Centrafrique. Puisqu'il faut répéter ou rappeler qu'environ 20 000 Congolais avaient fui Libengue également pour aller en République centrafricaine.
Alors à peu près 10 000 réfugiés qui sont retournés au Congo sur 130 000, si je ne me trompe pas, c'est quand même un retour timide. Comment vous expliquez cela ?
Alors oui, effectivement, jusqu'à très récemment, les réfugiés nous disaient encore qu'ils n'étaient pas sûrs que la paix, la sécurité soient rétablies dans leur village d'origine. Ils avaient encore une crainte de rentrer. Mais on a constaté, en fait, au cours surtout des dernières semaines, derniers mois, que de plus en plus de rapatriés spontanés venaient se présenter à nous, venaient nous dire, voilà, ça y est, nous, on est rentrés. On veut maintenant se réintégrer dans nos villages d'origine. Est-ce que vous pouvez nous assister à cela ? Effectivement, comme je vous le disais, on a vérifié un peu plus de 1000 réfugiés déjà qui sont rentrés à Dongo. Et nous, on les aide. En fait, le HCR est sur place, on a un bureau. On les aide à se réintégrer en leur donnant des biens, ce qu'on appelle des biens de première nécessité, c'est-à-dire des nattes, des sets de cuisine, des seaux, des jerricanes, des couvertures, et en construisant également des abris pour les personnes les plus vulnérables. Mais si je pouvais revenir un peu en arrière, en fait, ce qui a vraiment été déterminant pour lancer en fait ce mouvement de rapatriés spontanés, c'est le processus de réconciliation qui a eu lieu entre les communautés Enyele et Munzaya. Un pacte de réconciliation a été signé, ou plutôt un pacte de non-agression a été signé le 31 mars dernier. Depuis lors, les autorités locales nous ont informé qu'ils n'avaient enregistré aucun incident. Il y a des comités locaux de conciliation qui sont mis sur place, qui gèrent en fait la gestion des étangs de pêche qui étaient à l'origine des conflits. Et donc les réfugiés voient que la situation sur ce point-là s'est améliorée, qu'effectivement la réconciliation a eu lieu, et cela les encourage effectivement à vouloir rentrer maintenant.
Vous qui êtes sur terrain, vous avez été à Dongo, à Mobaye-Bongo, dans la province de l'Équateur, vous pensez que les conditions sont réunies maintenant pour que ces réfugiés retournent au pays ?
Alors moi, ce que je peux dire, ce que j'ai vu moi de mes propres yeux, c'est que effectivement, par rapport à l'an dernier, on voit que Dongo vit maintenant. J'étais très surprise de voir le marché qui fonctionnait de 6h du matin jusqu'à 22h le soir, les gens qui se promenaient dans la rue la nuit, on voyait de l'animation, on voyait effectivement que les gens étaient à l'aise. Et ensuite, j'ai écouté beaucoup de témoignages également de rapatriés qui nous disaient que la paix était revenue et qu'ils voulaient maintenant que leurs frères, qui sont de l'autre côté de la rivière Ubangi, rentrent également et qu'ils puissent ensemble reconstruire leur territoire dans la province de l'Équateur.
Merci Céline. Monsieur le ministre, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, Monsieur le Ministre, le programme alimentaire mondial PAM au Congo-Brazzaville a annoncé la rupture de ses stocks de vivres destinés à assister les quelques 120 000, on me dit maintenant c'est 130 000 réfugiés établis au nord du Congo-Brazzaville. Le PAM explique cette situation par l'absence des donateurs sur le plan international. Vous, gouvernement, quelle analyse vous faites de cette situation?
Bon, ce serait bien déplorable que les donateurs ne continuent pas à apporter leur financement aux organismes du système des Nations Unies et à d'autres organisations qui sont en train de s'occuper de la prise en charge de ces réfugiés qui sont aujourd'hui chez nos voisins. Parce que, et comme vous l'avez compris tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord que les plaidoyers puissent continuer. C'est vrai qu'ils sont peut-être confrontés à d'autres catastrophes qui se sont peut-être vers les pays des Maghreb et autres, avec cette attrie des réfugiés dans d'autres pays, et que peut-être une attention n'a plus été un peu soutenue comme avant. Mais je crois que la situation telle que décrite dans les cas de l'autre côté, elle est encore aussi très très déplorable, telle que nous pensons que ces donateurs doivent continuer et puissent continuer à apporter leur soutien à tous les programmes et projets en faveur des réfugiés.
Monsieur le ministre, au cas où le plaidoyer n'aboutissait pas à quelque chose de positif, est-ce que le gouvernement congolais est prêt à assister ces réfugiés?
Vous savez qu'il y a des normes. Quand ils sont réfugiés, ils sont dans un autre pays, il est toujours difficile que pour notre pays, on puisse traverser avec les aides, ça passer par les structures spécialisées. Et donc, ce qu'on déplore tous, en tant que membre aussi des Nations Unies, on sait qu'il y a des organismes et agences du système des Nations Unies qui s'occupent de telle ou telle question ou tel autre aspect de la question de prise en charge. C'est à cela que nous exhortons, comme d'habitude, ils l'ont fait, ils l'ont toujours fait, c'est vrai, c'est peut-être assez. Et par rapport à l'amélioration de la situation, comme nous avons dit, de l'autre côté, c'est-à-dire chez nous, nous avons toujours pensé que il était grand temps que les autres regagnent les bercail. On a été à Dongo dans plusieurs missions et c'était même au début de la rentrée. Mais bon, vous savez, le principe est celui du retour volontaire. Tant qu'eux-mêmes ne savent pas apprécier qu'il y a la paix, on ne sait pas utiliser la force. Mais au moins, on continue à les exhorter à rentrer, parce qu'il est toujours plus facile d'être pris en charge quand on est chez soi, parce que on peut profiter pour la réintégration, de maintenir les gens dans la situation de la prise en charge.
Alors, Monsieur le ministre, est-ce qu'il vous arrive de faire un tour du côté de Brazzaville pour voir ces réfugiés?
Mais bien sûr, le gouvernement, il y a déjà eu des missions conjointes, des missions mixtes pour essayer de voir la situation de nos compatriotes qui sont de l'autre côté.
Et c'est quand la dernière fois que vous êtes allé là-bas?
Pardon?
Je dis, c'est quand la dernière fois que vous êtes allé à Brazzaville pour voir ces réfugiés?
En tout cas, la dernière fois, ce n'était pas. La dernière fois, c'était avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à charge de la sécurité, avec ACER, avec les coordonnateurs humanitaires. Il y a même pas 2 mois, je pense. Je m'abuse.
Alors, vous allez rester en ligne, Monsieur le ministre. On va prendre cette réaction pour vous qui nous vient de Kisangani dans la province orientale.
Pepe Lifundi Botomoito depuis Kisangani en province orientale. Je voudrais savoir si ces réfugiés sont des Congolais ou non. Si oui, pourquoi elles ont passé plus d'une année au Congo-Brazzaville? Quelles sont les démarches déjà entreprises par le ministère des Affaires humanitaires congolais pour le rapatriement de ces gens au pays? Si le PAM Congo-Brazzaville n'est pas à mesure aujourd'hui de nourrir ces gens, est-ce que le PAM RDC ne peut pas intervenir?
Monsieur le ministre, réponse.
Tu vois que son souci est celui qui rentre toujours dans les cas de plaidoyer en faveur de l'assistance, pour qu'il y ait plus d'assistance en faveur de ces réfugiés. Je crois que c'est cela. Si PAM le dit, bien sûr, il y a toujours un état de lieu qui est établi entre PAM Brazza et PAM RDC. Et que au niveau de leur siège, s'ils émettent l'alerte, il est bien normal que nous, comme gouvernement, nous puissions bien appuyer pour que on puisse bien appuyer les PAM du Congo-Brazzaville pour qu'ils viennent assister nos compatriotes qui sont encore de l'autre côté.
Monsieur le ministre, la question de Pepe Lisungi a deux volets. Vous avez répondu à un seul volet. L'autre volet, c'est quelles sont les démarches déjà entreprises par le ministère des Affaires humanitaires pour le rapatriement de ces réfugiés congolais?
Mais il doit savoir que le principe est celui du retour volontaire. On ne peut pas aller les prendre par des câbles et les traîner sous son tôle pour qu'ils traversent le fleuve. Le retour est bien volontaire. Les mécanismes qui sont mis en place, c'est d'abord celui de la pacification par le gouvernement, vous le savez, avec des MONUSCO, où on est en train de pacifier l'Équateur. Il y a déjà plusieurs programmes de pacification, de conciliation des communautés au niveau sur place là-bas pour essayer de rassurer les gens. Madame venait de témoigner, comme moi j'avais été à Dongo la dernière fois, les populations qui... Les personnes qui, elles, sont déjà retournées dans le milieu d'origine, ils vivent calmement, ils vaquent maintenant à leurs occupations. Ils ont trouvé d'autres écoles réhabilitées par nos partenaires, d'autres par les gouvernements, et ainsi de suite. C'est ce qui est en train d'être fait.
Merci.
Et le gouvernement a le fait ça, c'est pour assurer ceux qui sont de l'autre côté que la paix est déjà revenue à l'Équateur et qu'ils peuvent traverser. Ce sont ces mécanismes-là, avec ACER, qu'on est en train, je crois, le ministère de l'Intérieur, et ACER qui sont en train de mettre ensemble.
Merci, monsieur le ministre, on vous garde encore. Alors, merci, monsieur le ministre, on vous garde encore dans cette émission. Maître Patty Lendo, vous êtes acteur politique de l'opposition. Et comment vous analysez-vous cette situation des réfugiés congolais de Brazzaville?
Merci de m'associer encore une fois à cette gymnastique. Je pourrais vous dire, après avoir suivi Céline et son Excellence, je voudrais d'abord saluer le gouvernement pour le rétablissement de la paix. Mais à ces remerciements ou à cet encouragement, je suis aussi désolé de me rendre compte que 51 ans après, nous continuons toujours à être ces grands enfants à qui il faudrait apporter aide et ainsi de suite. Et voyez-vous, je me suis senti si malheureux quand j'ai entendu dire, Céline, que le HCR apporte des nattes aux Congolais qui sont rentrés au bercail, voyez-vous, et que le ministre n'en a pas fait pratiquement allusion. Et si les organismes internationaux doivent assister les Congolais qui rentrent, bon, volontairement, comme le dit le ministre, dans leur propre pays par des nattes, par des draps, des essuies, mais je me demande quel fait finalement le ministère des Affaires humanitaires, intégration, solidarité et affaires sociales. Vous voyez, ça, c'est ça pose quand même quelque part un problème de gouvernance responsable, si vous voulez. Et en plus, ben, je n'ose pas croire que ces compatriotes qui sont pratiquement dans des conditions infra-humaines de l'autre côté du fleuve le sont par leur propre volonté. Il faudrait que le gouvernement engage un dialogue responsable, un dialogue franc, pour pouvoir briser de manière, je pourrais dire, claire la résistance dans le chef de ses compatriotes. Voyez-vous, leur souci serait qu'ils rentrent, puisqu'il y a maintenant paix, qu'ils rentrent chez eux à l'aise. Mais très souvent, vous savez, nous savons quand même comment ça se passe. La plupart d'entre ces compatriotes-là ont peur de certaines représailles. Voilà pourquoi je pense que le mieux serait qu'il y ait un discours franc entre le gouvernement congolais et nos compatriotes qui sont de l'autre côté du fleuve, surtout que les donateurs commencent un peu à s'élasser du phénomène congolais. Voyez-vous, aujourd'hui, les réfugiés congolais ne constituent plus l'objet de la préoccupation internationale. Il faut voir ce qui se fait en Libye. Si on doit faire cela aux Libyens, aux Tunisiens, aux Égyptiens, ainsi de suite, et les Congolais constituent quand même un cas de trop. Donc, je pense, sincèrement, il va falloir que nous puissions aborder ces problèmes avec beaucoup de patriotisme, avec beaucoup de solidarité et avec beaucoup d'élan nationaliste. Et vous verrez que si nous offrons, je parle de nous en termes du gouvernement, si le gouvernement donne des garanties sûres de sécurité, des garanties sûres d'intégration sociale à ses compatriotes, eh bien, ils n'auront plus de raison de rester là-bas.
Alors, Maître Joseph Patilien, dont vous parlez de garanties sur lesquelles, par exemple, selon vous, puisque le ministre vient de dire que la paix est rétablie là-bas, les Congolais peuvent revenir à l'Équateur, la vie est redevenue normale, est-ce qu'ils ont besoin encore de quelles garanties?
Mais le ministre ne l'a pas dit. Les HCR viennent de nous dire que les HCR assistent aux Congolais qui sont rentrés chez eux avec des nattes. Voyez-vous, en fait, ça ne peut quand même pas nous laisser, je pourrais dire, indifférents, nous qui nous voulons nationalistes dans ce pays. Comment on peut, un organisme international de la trempe des HCR peut nous apporter des nattes dès lors que nous avons tout ce qu'il nous faut dans ce pays pour pouvoir fabriquer nos propres nattes et nous occuper bonnement de nos frères qui sont rentrés au pays. Voilà, en fait, sur le plan social. Et de deux, mais puisque nous avons un ministère des Affaires humanitaires, un ministère de l'intégration, un ministère de la solidarité, un ministère des Affaires sociales, il faudrait que le gouvernement donne suffisamment la ligne, si vous voulez, de la politique nationale en termes du social, en termes de l'intégration, en termes des affaires humanitaires. C'est ce qui fait défaut. Et aussi, quand je parle des garanties, mais vous savez, nous savons comment ça se passe. Ils sont là, mais ils sont épiés, on vous dit, c'est vous qui avez fait ceci, c'est vous qui avez fait cela. Ils sont pratiquement pris entre l'amour de leur patrie et la peur de pouvoir répondre à certaines accusations qui très souvent s'avèrent non fondées. Voilà pourquoi je parle qu'il faut un langage responsable entre le gouvernement et nos compatriotes. Et surtout, le gouvernement ne peut plus rester calme dès lors qu'il y a un cri d'alarme qui est laissé. Il y a une cessation, si vous voulez, en vue de l'assistance alimentaire à nos frères. Mais comment ils doivent vivre? Et surtout que j'apprends, ils sont plus de 130 000.
Maître Patilien, on va prendre cette réaction pour vous qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Robert Bahomé de Bukavu au sud Kivu. La situation des réfugiés congolais évoquée par PAM au Congo-Brazza est très sérieuse et critique. Elle nécessite pour se faire une certaine urgence du gouvernement. Cependant, je doute fort que le gouvernement y intervienne efficacement, d'autant plus qu'il n'est pas aujourd'hui réellement animé par cette volonté politique de répondre d'abord positivement aux désirata et aux besoins vitaux de ceux qui sont sur place en RDC. A fortiori, résoudre positivement les problèmes vitaux de nos compatriotes réfugiés au Congo-Brazza et expulser d'Angola au Bas-Congo.
Maître Patilendo, brièvement.
Oui, mais vous savez, notre compatriote a évoqué le cas d'Angola. Vous savez, le gouvernement, mais il n'y a pas que l'Angola. Il y a aussi des amis qui sont rentrés de la Libye. Mais on les a vus à la télé par après le gouvernement les oublier. Et ce qui fait aussi une des raisons de la résistance de nos amis. L'Angola, nous avons vu dans quelles conditions l'Angola avait expulsé les nôtres. Mais qu'est-ce que le gouvernement avait fait? Les problèmes se posent en termes de la capacité de notre gouvernement à assurer la couverture sociale à ceux d'entre nos compatriotes qui se retrouvent dans des conditions pratiquement infrahumaines, comme je l'avais dit. Mais vous serez d'avis avec moi que le gouvernement est absent. Si ce n'est que par des petites ponctions, mais le gouvernement, en tant que gouvernement national, il est absent dans tous ces devoirs de nos compatriotes. Pour preuve, notre compatriote de l'Est a bien dit que la situation de nos frères de l'autre rive du fleuve devrait être une préoccupation. Ça devrait même appeler à une cellule d'urgence au niveau même de la primature pour s'occuper de ces cas jour après jour. Parce qu'après tout, ce ne sont pas des compatriotes du PAM, ce ne sont pas des compatriotes du HCR, ce ne sont pas non plus, comme j'ai entendu le ministre, lui aussi a lancé un appel, ce ne sont pas non plus des compatriotes des Nations Unies.
Merci.
Même si le Congo est signataire, même si le Congo est parti des Nations Unies. Mais ce sont d'abord les Congolais. Et le gouvernement a la charge d'assurer le bien-être, la survie, la sécurité sociale.
Merci, maître.
Citoyens à l'intérieur comme à l'extérieur du pays.
Merci, maître Patty Lendo. On a déjà commencé à parler de la situation des expulsés d'Angola. Céline Smith, est-ce que le HCR peut aussi intervenir dans ce genre de situation?
Alors, le HCR a un mandat de protection, effectivement, et en dehors de la protection des réfugiés, nous avons ici aussi en RDC un mandat de protection des civils et de protection des personnes déplacées. Nous mettons en œuvre ce mandat dans le cadre d'un ce qu'on appelle le cluster protection, où en fait on coordonne l'activité de tous les acteurs de protection pour voir quels sont les besoins et comment nous pouvons intervenir pour aider les personnes. Alors pour la situation plus particulière des expulsés d'Angola, il existe un groupe de travail des Nations Unies qui est géré par notre partenaire OCHA, qui assure la coordination humanitaire, et donc qui gère, qui coordonne tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine-là. Donc dernièrement, il y a eu une enveloppe d'un peu plus de 3 millions de dollars qui a été mise à disposition des acteurs qui intervenaient sur place pour arriver en aide aux personnes qui étaient expulsées, dans le Kasaï occidental, mais également au Bas-Congo. Donc on a le système des Nations Unies ici finance un certain nombre de partenaires pour ce qui est en fait la sécurité alimentaire, mais également la santé, l'aide de première nécessité aux expulsés, et également la protection de l'enfance. Donc voilà ce que font les Nations Unies dans ce cadre-là.
Merci Céline. Monsieur le ministre, il y a aussi cette situation d'expulsés d'Angola. Est-ce que ce sont les organismes internationaux qui doivent s'occuper des réfugiés, que ce soit des réfugiés ou des expulsés congolais qui reviennent au pays? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour ce genre?
Mais je ne comprends pas ta phrase, comment les gens interprètent. Quand on voit des humanitaires, disons-les comme ça, venir dans un pays pour essayer de soulager, pour essayer de sauver les vies humaines, est-ce qu'il faut tant polémiquer sur pourquoi le gouvernement ne fait pas ceci, pourquoi le gouvernement... C'est d'abord l'homme qu'on voit en tant qu'être humain. C'est pourquoi on parle des humanitaires. C'est pas la polémique des les organismes du système des Nations Unies et le gouvernement fait. C'est pas ça. Tout se fait en réalité sous d'abord la coordination du gouvernement, parce que ils agissent comme des partenaires du gouvernement. Ce n'est pas en dehors, il n'y a pas de polémique sur terrain. L'action doit être une action commune à faveur dirigée pour une même population. Quand on veut simplement diviser ceci par rapport à cela, c'est une polémique inutile politicienne où on veut simplement politiser même l'humanitaire. L'humanitaire, vous ne pouvez pas. Pas à Somalie, les gens sont en train de mourir de faim. Vous ne pouvez pas dire où est le gouvernement. On intervient d'abord. Et là, il n'y a ni gouvernement ni opposition. On voit d'abord la misère, la souffrance de cette population et on intervient. Ces donateurs-là, quand ils interviennent d'abord de bon cœur parce que la situation qui est là, elle est déplorable. Si en RDC, la situation humanitaire a toujours été jugée préoccupante, cela a une origine, plusieurs crises qui a eu des années et des années, plusieurs guerres qui se sont succédées, qui nous ont laissé des cas de réfugiés qui sont dans au moins 9 pays limitrophes. À l'intérieur, il y a des déplacés internes, presque dans beaucoup de territoires. Parce que ici encore, alors que nous venons de faire l'expérience de 5 ans des institutions qui sont là, mais qui étaient des institutions ici des urnes. Mais il y en a encore qui croient qu'ils doivent utiliser les armes pour, je sais pas moi, revendiquer tel ou tel autre aspect du pouvoir. C'est ça qui est en train de causer la misère. Je n'étais pas d'accord avec Maître lorsqu'il voulait invoquer qu'il y en a qui sont encore terrorisés parce qu'ils craignent pour leur sécurité, ils craignent des représailles. À Dongo, nous avons été là, la population qui est retournée, personne n'a connu ces cas-là. Il faut parfois donner plutôt des cas qui encouragent les autres à revenir dans leur pays. On est toujours mieux chez soi qu'ailleurs, qu'en dehors de son pays. C'est toujours comme ça, parce qu'au moins, là, on va retrouver la case. Là, on va retrouver peut-être les champs. Là, on va retrouver les autres membres des familles. On consolide aussi la solidarité.
Alors, monsieur...
L'assistance qui vient par l'humanitaire, c'est pas tant pour terminer toute la misère, mais au moins pour sauver, pour soulager et essayer d'apporter une intégration pour que ceux-ci retrouvent leur vie dans le temps. C'est à cela. On ne peut pas être là, même si on est opposant, c'est-à-dire tel organisme a distribué des gens, tel organisme a distribué. Non, c'est pas ça la valeur
d'un bien. Alors, monsieur le ministre, loin de nous de faire des polémiques dans cette émission, on veut juste savoir ce que le gouvernement fait pour ces gens, que ce soit des expulsés ou des réfugiés, parce que pour le cas de l'Angola, il y a même une ONG qui a demandé au gouvernement de la RDC de renforcer la prise en charge de ces expulsés d'Angola, monsieur le ministre. Donc, on n'est pas là pour polémiquer, juste pour savoir ce que le gouvernement congolais fait pour ces réfugiés ou pour ces expulsés.
Mais je vous dis bien que même si c'est une ONG, quand il le fait, c'est toujours dans le cadre des partenariats avec le gouvernement. Lorsque nous apportons les plans d'action humanitaire, comme on l'a fait dernièrement, c'est d'abord c'est collecté comme de la situation humanitaire et ceci est adopté pour essayer de mobiliser plus de ressources par rapport à l'intervention à faire en faveur de ces populations. Le gouvernement, on ne peut pas voir les actions du gouvernement séparées des actions des ONG.
Merci.
Donc il y a des États.
Merci, monsieur.
Donc, on a toujours la même coordination et quand ils agissent, c'est vrai dans la complémentarité, les gaps se trouvent à quel niveau, comment résoudre la question. C'est comme ça que lorsqu'on les fait, on adopte un plan d'action humanitaire, c'est pour qu'on intervienne à faveur de toutes les populations qui sont recensées dans la situation humanitaire.
Merci. Merci, monsieur le ministre. Quelle est la politique du gouvernement et de ses partenaires tels que les HCR pour assurer la réintégration de ces personnes? C'est la deuxième partie de notre émission qui nous amène dans la province du Bas-Congo où l'ONG Interaction de Tchila s'alarme de la précarité dans laquelle vivent les réfugiés d'Angola qui manquent de tout. Cette ONG demande au gouvernement de pourvoir à leur prise en charge. On écoute Valentin Vangui, secrétaire exécutif de l'ONG Interaction de Tchela au téléphone de Danny Kindanzita.
Le refoulement a commencé déjà le 1er octobre avec la frontière de Kalindi. Les Congolais qui viennent de la province de Kabinda, tous sont totalement démunis. Il manque de l'eau, il manque de la nourriture, il manque même de quoi à se payer les transports pour arriver chez eux. Nos moyens sont limités. Le responsable provincial de la police étrangère là, au niveau de Kabinda a déjà annoncé, M. Gomez, il a déjà lancé l'ultimatum pour dire qu'il faudrait s'attendre à une vague d'expulsés puisque nous sommes certains qu'on est là pour lancer l'ultimatum et qu'on va encore s'attendre à une vague très importante des expulsés. Il faudrait que nos capacités de prise en charge soient renforcées.
Monsieur le ministre, vous venez de suivre Monsieur Valentin Vangui, secrétaire exécutif de l'ONG Interaction de Tchela, qui lance un appel au gouvernement pour pouvoir prendre en charge les expulsés qui viennent d'Angola. Quelle est la politique du gouvernement dans la prise en charge ou la réintégration de ces personnes qui retournent au pays, Monsieur le ministre?
En réalité, la politique, elle est simple. C'est qu'on est en train de vouloir adopter ce que nous appelons le plan ORSEC, l'organisation de secours d'urgence, qui est un plan que nous pensons va justement éliminer cette question. Qu'est-ce que fait le gouvernement? L'humanitaire a fait quoi? Le tout, c'est la même question, c'est l'humanitaire. Et le plan va faciliter parce que, on a découvert qu'il y avait peut-être moins de structures de coordination qu'il y avait entre ce qui est fait par les partenaires et ce qui est fait par les gouvernements, tels que le suivi et évaluation de la situation de prise en charge et de réintégration de toutes ces populations n'était pas efficace. Ce qu'on voudrait est qu'il y ait ce plan du gouvernement sous lequel pourront s'aligner toutes les autres actions des partenaires et du gouvernement et ensemble on va éviter les doublons dans les interventions, les gaspillages d'énergie et des ressources. Nous pensons que ce plan pourra vraiment faciliter et que pour qu'on soit un peu plus près de ces personnes vulnérables. Comme je l'ai dit, ils sont il n'y a pas que les expulsés ou les refoulés d'Angola ou à l'Équateur, il y a encore aussi des millions de déplacés, comme on l'a dit. Partout là-bas, on a besoin que tout ceci bénéficie de l'aide humanitaire.
Merci, Monsieur le ministre. Maître Patilindo, par rapport, réaction par rapport au plan que le ministre propose pour la réintégration de toutes ces personnes qui retournent au pays.
Non, ben, je voudrais d'abord rassurer son Excellence, Monsieur le ministre, que quand nous parlons Congo, il n'y a pas opposition, il n'y a pas majorité. Le Congo est un, aussi bien pour l'opposition que pour la majorité. Ça, c'est d'un, mais de deux, quand nous parlons de son ministère, il ne faut pas qu'il perde de vue que il y a quand même un acte du gouvernement qui donne les attributions du ministère et que les organismes des Nations Unies ne sont pas des organismes de substitution de l'État. Ça, je suis désolé. Ce sont des organismes d'appui aux efforts du gouvernement, je pense. Mais nous, Congolais, nous n'avons pas à nous prévaloir de l'apport des organismes internationaux, soit-ils humanitaires. Je pense que là, ce serait quand même déplacer les débats. Mais aussi, c'est que nous, Congolais, nous voulons savoir. Nous n'appartenons pas au gouvernement des Nations Unies. Nous appartenons à un gouvernement national. Il faudrait que notre gouvernement nous dise réellement ce qu'il est en train de faire. Pour nous, c'est ça en fait notre préoccupation.
Alors, Maître Paty, je voudrais poser une question. Comment vous réagissez au plan que propose le ministre pour la réintégration de toutes ces personnes qui retournent au pays?
Non, mais vous venez de vous rendre compte que le plan du ministre est encore sur le plan purement de la pensée, des lignes, du verbe. Mais nous sommes Congolais. Nous avons des frères qui sont rentrés du Congo. Si ce plan-là va commencer aujourd'hui, ben, nous allons nous dire, mais le plan sera appliqué avec tout ce qu'on a comme contexte politique actuel. Mais néanmoins, nous savons qu'il faut que le ministre reconnaisse quand même par moment qu'effectivement, il y a des failles dans le système, dans la couverture sociale de nos déplacés, de nos réfugiés quand ils rentrent au pays. Ça, c'est quelque chose de si clair. Mais aussi, je n'ose pas croire qu'au jour d'aujourd'hui, le Congo ait encore besoin de quelconque plan. Nous en avons connu autant. Nous avons connu autant de plans dans les différents secteurs. Mais ce que nous demandons au gouvernement, ce n'est plus qu'on nous fasse encore des litanies de plans, mais que le gouvernement nous dise concrètement, parce que nos compatriotes ne vivent pas de plans, ne vivent pas dans la pensée. Ils vivent, ils sont confrontés à des problèmes réels de survie, à des problèmes existentiels, je dirais, manifestement établis. Donc à ces gens-là, il ne faudrait pas leur parler de plans. Il faut plutôt être plus pragmatique, il faudrait plutôt être plus réaliste, il faudrait être sur terrain pour pouvoir nous présenter des actions urgentes à mener, j'avais dit.
Alors, Maître Paty, il faut quand même saluer les efforts que fournit le gouvernement pour le retour de ces réfugiés. Mais vous, en tant qu'acteur politique, qu'est-ce que vous proposez pour la réintégration de toutes ces personnes qui retournent au pays?
Non, je vais vous dire une chose. Ça ne se fait pas comme ça. Voyez-vous, en tant qu'acteur de l'opposition, je pense qu'au niveau de l'opposition, nous avons passé en revue tous les problèmes qui rongent la vie du citoyen congolais, et c'est secteur par secteur. Nous parlons du social, les affaires sociales, l'intégration. Mais nous sommes en train de regretter quelle est la politique du gouvernement en matière d'intégration, en matière d'assistance humanitaire pour ceux d'entre nos compatriotes qui se retrouvent dans des conditions pareilles. Quelle est la politique du gouvernement en matière de prise en charge de nos vulnérables qui rentrent des quelles frontières? Mais vous savez, vous venez de vous rendre compte tout à l'heure que le HCR est en train de distribuer des NAC aux Congolais. Mais je pleure dans le plus profond de mon cœur en tant que nationaliste congolais. Donc voilà ce que je vous dis. Le problème aujourd'hui, nous attendons du gouvernement actuel des mesures urgentes à nous proposer pour pouvoir faire face à ce fléau qui est en train pratiquement de prendre du terrain. Ça, c'est ce que nous attendons. Nous ne voulons plus qu'on nous ramène encore dans les cimetières de plans, de projets, des études. Nous sommes déjà champions en études.
Merci,
nous
Maître Paty. Merci, Maître Patilindo, Céline Schmitt. J'espère que je n'ai pas massacré votre nom. Alors, comment les HCR fait pour assurer la réintégration de toutes les personnes? Au niveau du HCR, comment vous faites pour assurer la réintégration des réfugiés ou des expulsés qui reviennent au Congo?
Alors, Tout d'abord, bon, on peut prendre l'exemple effectivement de la province de l'Équateur, puisqu'on parlait de la province de l'Équateur tout à l'heure. Donc effectivement, pour rappeler un peu l'historique de comment tout ça se fait, pour clarifier également un peu cette information auprès des auditeurs, c'est que tout cela est fait dans le cadre d'un accord tripartite qui a été signé entre la République démocratique du Congo, la République du Congo et le HCR en juin 2010. Cet accord tripartite est en fait la base juridique pour le rapatriement volontaire des réfugiés qui vivent actuellement en République du Congo. Un certain nombre de recommandations ont été prises, des modalités pratiques ont été prises, et nous travaillons ensemble, les trois parties, pour faire en sorte de préparer les conditions pour le retour des réfugiés. Ça, c'est la première étape. Donc, on a parlé effectivement du processus de réconciliation qui impliquait les différentes parties pour permettre tout d'abord une réconciliation, un rétablissement de la sécurité et de la paix dans la province de l'Équateur avant de pouvoir effectivement parler du retour des réfugiés. Ensuite, en ce qui concerne la réintégration, encore, nous continuons à travailler avec les autorités locales et nationales pour voir quels sont les besoins des réfugiés une fois qu'ils sont rentrés chez eux.
Et donc, vous adoptez le plan que propose le gouvernement.
Nous travaillons ensemble avec les autorités. Nous sommes partenaires. Comme le disait le ministre, nous sommes partenaires dans le plan d'action humanitaire. Nous sommes partenaires dans l'accord tripartite qui a été signé pour le retour des réfugiés de la République du Congo, mais également d'autres pays, puisque chaque rapatriement de réfugiés se fait dans le cadre d'un accord tripartite qui comprend donc le HCR, le pays hôte des réfugiés et le pays vers lequel les réfugiés retournent, le pays duquel ces personnes-là sont des citoyens en fait. Donc pour la réintégration également, nous travaillons ensemble pour voir quels sont les besoins en fait dans les régions de retour. Alors la réintégration se fait tout d'abord effectivement par de l'aide d'urgence, puisque les gens souvent ont dû fuir, comme ça a été le cas dans la province de l'Équateur, les gens ont fui des violences, donc ont tout perdu. Ont perdu souvent leur maison, et donc il faut tout d'abord une aide d'urgence pour permettre aux gens de recommencer leur vie quand ils sont de retour chez eux. Peut-être effectivement qu'il y a également eu des infrastructures sociales ou de santé qui ont été détruites, et donc nous aidons également les autorités à pouvoir reconstruire ces infrastructures, que ce soit des écoles primaires ou aussi des centres de santé ou des hôpitaux. Donc nous travaillons sur ces différents secteurs.
Merci Céline. On va prendre quelques réactions des auditeurs. Augustin Mwango de Kalima au Maniema dit ceci: je pense que notre gouvernement ne fait pas de la situation dans laquelle se trouvent les déplacés, aussi bien que les réfugiés congolais, une préoccupation majeure. Pourtant, il n'y a rien de plus important que la vie humaine. Mukonka Steve de Goma au Nord Kivu: pour le cas de l'Angola, ce n'est pas la première fois qu'une telle opération se passe. Je me demande seulement si notre gouvernement attend une multitude des pertes de vies humaines pour intervenir. Katawanja Swedi, le stoïque de Kindo Maniema: tant que les conditions socio-économiques et sécuritaires de la RDC ne seront pas favorables dans ce coin du pays, nous allons toujours assister aux misères de nos compatriotes expulsés et réfugiés congolais. Aucune politique du gouvernement dans la prise en charge des réfugiés et des expulsés ne sera efficace. Monsieur le ministre, comment vous réagissez à ces réactions des auditeurs?
C'est regrettable parce que pour quelqu'un qui connaît la situation dans laquelle se trouvait notre pays depuis la guerre de 96 par exemple, et les cas de réfugiés qui étaient autour des villes, par exemple la ville de Goma et tout de suite, et d'autres, et qui aujourd'hui, quand il sera à Goma, il va à Masisi et à Rutshuru, bien qu'il y ait des postes de résistance, mais au moins, c'est vrai qu'il y a encore d'autres camps. Il y a aussi de nouveaux cas comme à Kalemie où nous étions dernièrement, où on a beaucoup travaillé avec les partenaires. Mais on doit d'abord se féliciter des efforts qui ont été fournis depuis tout ce temps.
Monsieur le ministre, vous nous avez déjà parlé des efforts, on n'a plus beaucoup de temps. Je vais vous demander de conclure en un mot. Qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion?
En conclusion, comme on l'a dit, l'effort du gouvernement est celui aujourd'hui de vouloir passer des urgences, de l'aide d'urgence pour la réinsertion socio-économique de toutes ces populations vulnérables. Tout le monde le sait. L'effort a été au niveau de la sécurisation, de la pacification, c'est ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, même aux Nations Unies, le chef de l'État l'a répété.
Merci.
L'effort, c'est celui de voir tous nos compatriotes retrouver leur lieu d'origine.
Merci, monsieur.
Réinsérer dans les activités.
Merci, monsieur le ministre. Maître Patilé, nous en aimons conclusion.
En un mot, je pense qu'il faut que nous mettions sur pied une gouvernance responsable qui implique la participation active de toutes les branches du gouvernement, non pas de manière putative, mais de manière réelle.
Merci, Maître Patilendo. Céline, conclusion, en un mot.
Oui, donc ce que je peux dire en conclusion, c'est que le HCR continue à travailler en collaboration avec les autorités, à appuyer les autorités pour permettre le retour au pays des réfugiés qui souhaitent rentrer chez eux et pour permettre leur réintégration.
Merci Céline, c'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.